Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme chaque année, l'Église nous fait lire ces magnifiques pages d'Évangile traitant de Saint Jean-Baptiste et de sa mission, puisque Saint Jean-Baptiste, il prépare la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, il ne prépare pas la venue en tant que naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en tant que vie publique de notre Seigneur. Donc voilà pourquoi l'Église va utiliser pendant ce temps de l'Avent ces belles paroles de Saint Jean-Baptiste. Et je ne vais pas tellement me casser la tête, puisque je vais simplement vous partager ce très beau sermon, avec mes petites gloses habituelles bien entendu, de Saint Grégoire le Grand sur cette page d'Évangile justement. Donc Saint Grégoire le Grand, hein, vous le savez, il vit à la fin du 6e siècle, début du 7e siècle. C'est un grand pape. On le connaît par le chant grégorien qu'il n'a jamais composé, soit dit en passant, pour le coup. C'est une légende carolingienne pour donner un peu de lustre au chant romain dans les pays francs. Ce n'est pas grave. Le pape Saint Grégoire a intervenu sur la liturgie, de sorte même qu'il a donné son nom à un sacramentaire, le sacramentaire grégorien. Ce fut un très grand pape et un docteur de l'Église qui a partagé, commenté l'Évangile dans de nombreuses homélies. Un pape également missionnaire, hein, qui a envoyé des missionnaires bénédictins en Angleterre, et ce qui a permis l'installation aussi de l'Évangile. Donc, voilà ce que nous dit Saint Grégoire sur ces paroles d'Évangile. Les paroles de l'Évangile d'aujourd'hui nous font valoir l'humilité de Jean. Lui, il s'agit de Saint Jean-Baptiste, lui dont la vertu était si grande qu'on aurait pu le prendre pour le Christ, il choisit de rester sagement dans son rôle sans se laisser follement entraîner par l'opinion humaine au-dessus de lui-même. L'Évangile, ce sont les pharisiens qui envoient des personnes pour interroger Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, il exerce non loin de Jérusalem, au-delà du Jourdain, mais c'est pas très loin de Jérusalem en fait. Et donc, ce personnage attire des foules, il les invite à la pénitence, par conséquent, c'est moi qui parle, hein, là c'est pas Saint Grégoire, mais je pense que vous en apercevrez. Je connais quand même pas Saint Grégoire par cœur. Donc, Saint Jean-Baptiste commence à prendre beaucoup d'importance, par conséquent, les docteurs de la loi, les pharisiens, les pontes de Jérusalem vont envoyer des gens pour l'interroger. « Qui es-tu ? Est-ce que tu es le Christ ?» Bien sûr, Saint Jean-Baptiste répond « Non, je ne suis pas le Christ. » Es-tu Élie ? Non, je ne suis pas Élie. Es-tu un prophète ? Non, je ne suis pas un prophète. Mais alors, qui es-tu donc ? Dis-le-nous. Commence à s'impatienter. Je suis la voix qui crie dans le désert. Donc, Saint Grégoire nous parle de l'humilité de Saint Jean-Baptiste parce que Saint Jean-Baptiste dit la vérité. Parce que Saint Jean-Baptiste se met à sa place. Il n'est pas le Christ. Il n'est pas Élie. Alors notre Seigneur dira qu'il est Élie, hein, d'une certaine manière. Élie était sa figure en tant que préparation. Et il n'est pas un prophète. Il est quoi ? Il est la voix qui crie dans le désert. Donc il est le préparateur de la venue du Seigneur. C'est ce que dira aussi notre Seigneur, il est plus qu'un prophète en réalité. Mais que crie-t-il Saint Jean-Baptiste ? Ce qu'il ajoute nous le fait savoir. Rendez droit le chemin du Seigneur comme l'a dit le prophète Isaïe. Le chemin du Seigneur vers le cœur de l'homme est rendu droit quand celui-ci écoute humblement la parole de vérité. Le chemin du Seigneur vers le cœur est rendu droit quand celui-ci dispose sa vie dans le sens des préceptes. C'est pourquoi il écrit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. » C'est très intéressant ici ce que nous dit Saint Grégoire. Saint Jean-Baptiste nous dit de rendre droit le chemin du Seigneur. Saint Grégoire détermine quel est ce chemin. C'est le chemin du Seigneur vers notre cœur. Donc c'est un chemin qui est descendant. C'est pas le chemin ascendant de notre vie vers le Seigneur. C'est intéressant de voir comment Saint Grégoire présente la chose. Et c'est vraiment dans le cadre de la préparation de l'Avent, puisque le but c'est de retirer toutes les grâces de la fête de Noël, qui est la descente du Verbe de Dieu sur terre, son apparition au monde, et qui se prépare justement comment accueillir le Seigneur, comment lui préparer la voie. Eh bien, nous le savons, en écoutant humblement la parole de vérité et en disposant sa vie dans le sens des préceptes. C'est ce que je vous ai dit encore il n'y a pas si longtemps que ça, à savoir les deux éléments, d'abord la doctrine, d'abord la vérité, et ensuite, bien sûr, vivre selon cette vérité, selon les préceptes de Dieu. Le Seigneur s'adresse d'abord à notre intelligence pour l'éclairer par la foi, et ensuite, il s'adresse à notre volonté pour qu'elle suive ses préceptes. Donc, nous savons ce que nous avons à faire pour préparer la fête de Noël, pour en recevoir des fruits, des grâces, pour mieux recevoir le Seigneur. Nous le savons, il faut adhérer de tout cœur à la foi et il faut adhérer de tout cœur aux préceptes de Dieu. Cela suppose l'humilité. Le pape continue, quiconque gonfle son esprit d'orgueil, quiconque est étouffé par les ardeurs de l'avarice, quiconque se souille des avilissements de la luxure, ferme la porte de son cœur à la vérité. Il se retranche en son âme par les verrous de ses vices afin d'empêcher le Seigneur de venir à lui. Peut-être l'avez-vous expérimenté dans votre vie spirituelle, cet éloignement du Seigneur, le fait de se retrancher derrière les verrous de ses vices. Nous le voyons également à l'échelle aujourd'hui de la société, mes bien chers frères. Pourquoi la société ne veut pas de notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi la société ne veut pas de Dieu? Parce que elle est gonflée d'orgueil, parce que elle est étouffée par les ardeurs de l'avarice, la recherche des biens matériels, parce que elle est souillée par tous les avilissements de la luxure. Elle ferme la porte à la vérité. Elle ferme la porte au Verbe de Dieu qui est la vérité. Elle ferme la porte à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, malheureusement, la réalité. Pourquoi on met en avant autant la laïcité? Parce que on ne veut pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la voie, la vérité, la vie. Parce que si on suit notre Seigneur Jésus-Christ, on est obligé de renoncer à nous-mêmes, à notre propre intelligence, à notre propre vision des choses, plus exactement, pour adhérer à la vision des choses de Dieu par la foi. On est obligé de renoncer aux biens extérieurs, aux biens matériels, ou du moins, on est obligé de les mettre à la place qui est la leur, en dernier lieu. On est obligé de le faire parce que nous savons que c'est bien par la foi, nous savons qu'ils passeront. Nous savons aussi que ces biens ont tendance à nous entraîner hors du sentier, que ces biens ont tendance à nous entraîner hors de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, il y a cet avilissement de la luxure. De façon générale, derrière cela, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons les plaisirs charnels. Bien sûr, ceux de la luxure, mais pas uniquement. Là encore, nous voyons les trois concupiscences, n'est-ce pas ? La concupiscence de l'esprit par l'orgueil, et la concupiscence des biens matériels, l'avarice, la concupiscence de la chair, la luxure, tout cela ferme la porte à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons nous examiner. Bien sûr, dans cet avilissement, il y a différents degrés. Il y a le degré, je ne dirais pas extrême, de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, parce que nous nous apercevons jour après jour, mois après mois, année après année, décennie après décennie, que nous pouvons toujours descendre plus bas. Mais il y a des degrés, et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons être honnêtes par rapport à ces trois blessures, ces trois concupiscences. Est-ce que nous avons ce renoncement de l'esprit, de l'intelligence, pour adhérer de toute notre âme à notre Seigneur Jésus-Christ, à la foi, à la vérité de l'Église catholique ? Est-ce que nous avons ce sens des hiérarchies, des priorités ? Sommes-nous plus attirés par les biens de ce monde ou sommes-nous plus attirés par les biens spirituels qui sont pourtant les plus nécessaires ? Sommes-nous plus attirés par les plaisirs charnels que par la proximité avec notre Seigneur Jésus-Christ, par les délices de la prière et de la vie spirituelle ? C'est ça, mes bien chers frères, la question finalement que Saint Jean-Baptiste et Saint Grégoire le Grand nous posent. Oui, je me suis bien éloigné, bien sûr, et c'est tout à fait normal. Il faut savoir s'inspirer et appliquer aussi à notre époque, à notre situation particulière. Et je conclurai avec Saint Grégoire à ce propos, frère très cher. Nous devons considérer et méditer très attentivement la conduite des saints. Même quand ils savent certaines choses d'une manière admirable, ils tâchent de se remettre devant les yeux de l'esprit ce qu'ils ne savent pas, afin de conserver en eux la vertu d'humilité, pour ne pas tomber dans l'orgueil de l'esprit. Aujourd'hui, l'homme prétend tout savoir, prétend tout connaître, prétend être capable même de tout connaître, toute réalité. Et cela est un orgueil immense. S'examinant ainsi du côté où ils sont faibles, ils empêchent leur âme de s'élever du côté où elle est parfaite. Car si la science, la connaissance de Dieu est une vertu, l'humilité est la gardienne de la vertu. Il ne reste donc qu'à humilier notre esprit en tout ce qu'il sait, pour lui éviter de se voir arracher par le vent de l'orgueil ce que sa vertu de science avait rassemblé. Saint Paul le disait déjà, c'est la fameuse science qui enfle au lieu d'édifier. Quand vous faites le bien, mes frères, là c'était du côté de l'intelligence, soyons humbles de ce côté-ci. Du côté de la volonté, quand vous faites le bien, mes frères, rappelez-vous toujours ce que vous avez fait de mal. Ouais, c'est plein de punchlines, il y a de quoi méditer. Quand vous faites le bien, rappelez-vous toujours ce que vous avez fait de mal. Votre âme ayant ainsi la prudence de prêter attention à ses fautes, n'aura jamais l'imprudence de se complaire dans ses bonnes actions. Parce que à partir du moment où nous nous complaisons dans nos bonnes actions, où nous sommes satisfaits de nous-mêmes, même de nos progrès dans la vertu, en oubliant d'où nous venons, en oubliant notre faiblesse, en oubliant que nos progrès dans la vertu sont dus à la grâce de Dieu, eh bien, c'est là que nous tombons lamentablement. Parce que nous sommes tombés avant dans le péché d'orgueil. Et donc après, eh bien, on va tomber dans les autres péchés. C'est mathématique. C'est comme ça que ça se passe. Donc quand vous faites le bien, rappelez-vous toujours ce que vous avez fait de mal. Saint Benoît le dit admirablement également dans son chapitre des instruments des bonnes œuvres, justement, cet attirail, arsenal de punchline spirituel pour notre vie de tous les jours. Le bien que l'on fait, l'attribuer à Dieu. Quant au mal, le regarder comme étant, comme venant de nous-mêmes. Tout est là dans la vie spirituelle, dans le progrès spirituel. Estimez vos proches meilleurs que vous, surtout ceux dont vous n'avez pas la charge, car même si vous les voyez commettre quelque mal, vous ignorez tout ce qui se cache de bien en eux. Efforcez-vous d'être grand, mais ignorez pourtant d'une certaine manière que vous l'êtes. Et oui, il faut être grand, c'est même une vertu. C'est-à-dire, il faut veiller à grandir dans la vie spirituelle. Il faut avoir une grandeur d'âme. Il faut vouloir la sainteté, la vertu. Et donc, il faut s'efforcer d'être grand. Mais ignorer pourtant d'une certaine manière que nous le sommes, pour ne pas perdre cette grandeur par la suffisance que vous mettriez à vous l'attribuer. N'est-ce pas ce que dit le prophète Isaïe ? Malheur à vous qui êtes sages à vos propres yeux et avisés selon votre propre sens. Et saint Paul déclare : ne vous prenez pas pour des gens avisés. Si donc les saints, même quand ils accomplissent des actions courageuses, ont d'humbles sentiments d'eux-mêmes, que diront pour leur excuse ceux qui se gonflent d'orgueil sans pratiquer la vertu ? Malheureusement, combien sont-ils nombreux ? Mais quelles que soient les bonnes œuvres qu'on réalise, elles sont sans valeur si elles ne sont assaisonnées d'humilité. Une action admirable accomplie avec orgueil ne nous élève pas, mais nous appesantit davantage. Celui qui cumule les vertus sans humilité est semblable à un homme qui porte de la poussière en plein vent et qui en est d'autant plus aveuglé qu'il paraît en porter davantage. En tout ce que vous faites, mes frères, conservez donc l'humilité comme racine obligée de vos bonnes œuvres. Ne regardez pas ceux que vous avez déjà dépassés, mais ceux qui vous dépassent encore, pour qu'en vous proposant les meilleurs en exemple, vous puissiez monter toujours plus haut grâce à l'humilité. Voilà donc comment préparer la voie au Seigneur. C'était le testament de saint François de Sales. Humilité, humilité, humilité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.